Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, des femmes et de l'Internet en Afrique. Eh bien, détrompez-vous, l'association n'est pas si évidente que cela de tous ces mots. Regardez autour de vous et surtout regardez par rapport aux hommes, quel est l'accès des femmes à Internet sur le continent africain. Qu'elles soient entrepreneuses, étudiantes ou en recherche d'emploi, Internet, on le sait aujourd'hui, a un impact positif sur la vie des femmes. Alors, comment diminuer les inégalités numériques pour les femmes? Des associations, des entreprises sociales se développe tout particulièrement pour ce public féminin. Et les voisines, bien sûr, nous attendons vos témoignages. Comment Internet vous a-t-il aidé pour votre vie professionnelle? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou celles de vos voisines? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Nous allons discuter avec nos invités. Bonjour Julie Owono.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ONG Internet sans frontières. Nous serons également en ligne avec la ministre Hadja Sanon Ouattara au Burkina Faso, qui vient d'être nommée ministre du développement de l'économie numérique et des postes. Elle dirige aussi l'association Femmes, TIC et Développement Durable. Et une entrepreneuse sociale, Anne Pelagie Yotchou, entrepreneuse au Cameroun, leader d'associations féminines, dont une structure qui forme les femmes entrepreneurs aux nouvelles technologies. Le Cameroun qui, par ailleurs, fait face depuis 2 mois et demi à une privation d'Internet dans les régions anglophones après plusieurs semaines de contestations. Tous vos messages sur les femmes et l'Internet sur le continent africain au 33 1 84 20 22 71 71 et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux. Je vous lis quelques messages. Julie Owono, vous êtes avec nous en studio. Alors, Facebook, je peux vous le dire, chez nous, c'est la fracture numérique tous les jours. Hein. Combien de filles parmi nos fans? J'aimerais bien qu'on compte. Il y en a très peu, je peux vous le dire. Souni est à N'Djamena, d'ailleurs, donc un voisin qui répond à la question comment améliorer l'accès à Internet pour les femmes. Les TIC sont pour les femmes intellectuelles ouvertes et branchées, comme on dit ici. Il faut qu'elles soient super motivées, qu'elles aient une formation dans un établissement qui leur donne accès aux bons outils et qui leur permet de trouver un travail pour se les acheter ensuite. Sous-entendu, un smartphone. Il est trop tôt ou inutile de parler d'inégalité dans ce monde-là, parce que l'accès aux TIC est difficile pour tous. Pourquoi toute cette discrimination positive? Je pense que l'inégalité se fait surtout aujourd'hui entre ceux qui habitent en ville et ceux du monde rural. Bah alors, quand on est une femme et dans les campagnes au village, alors là, ça s'appelle la double peine, non?
Absolument.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ce message d'un voisin un tout petit peu agacé, finalement?
Non, mais je peux comprendre, effectivement, mais ça me rappelle, ça fait écho aux critiques. Généralement, quand on parle des droits des femmes, les hommes, ils disent « Ah, les droits des hommes ». Non, il n'est pas question de faire des discriminations contre quiconque. Il est question plutôt de reconnaître que, malheureusement, les inégalités que l'on connaît dans le monde réel, entre guillemets, c'est-à-dire les inégalités de salaire, inégalités d'accès à l'emploi, inégalités face à l'alphabétisation, se reproduisent avec encore plus de force sur l'espace cybernétique. Tout à l'heure, le voisin depuis N'Djamena écrivait qu'il faut avoir accès à l'éducation, il faut avoir un portefeuille qui permette de s'acheter un accès à Internet. Je suis absolument d'accord avec cette remarque-là. Si on considère que les femmes sont plus vulnérables à la pauvreté et qu'en plus les femmes du monde rural le sont encore plus, si l'on considère qu'elles sont un petit peu moins alphabétisées que les hommes dans certains pays, on comprend tout de suite qu'il y ait beaucoup moins de femmes sur Internet et qu'elles aient moins les moyens d'accéder à cet outil.
On va revenir bien sûr sur les chiffres. Younous est à Dakar et il nous dit au Sénégal la tendance est presque inversée, ce sont les femmes qui ont les derniers smartphones, ordinateurs. Il est bien à Dakar. Alors, un îlot de gloire pour les femmes et le numérique, Dakar?
Oui, bah c'est très bien, mais le tout n'est pas d'avoir un smartphone. Après, il faut savoir l'utiliser dans toutes ses possibilités. Et c'est justement l'un des objets du projet que nous menons en ce moment et dont on parlera tout à l'heure.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle Chantal d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Chantal, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, je suis Chantal Ayemou. Présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme.
Oui.
En Côte d'Ivoire, nous avons mené une enquête sur l'accès des femmes à Internet dans la commune de Yopougon.
Oui.
Et nous avons dit que 80% des femmes n'avaient pas accès à Internet. Or, nous savons que Internet est un outil de communication, un outil de change, un outil de formation et un outil de dénonciation pour les cas des violences que subissent les femmes. Mais nous avons constaté que les femmes n'avaient pas accès à Internet pour plusieurs raisons. Parce que Internet a un coût. pour avoir accès à Internet, il faut avoir soit un ordinateur ou un téléphone portable. Et en plus de cela, il faut payer pour avoir accès à Internet. Oui. Or, le coût de la vie fait que ces femmes-là n'ont pas le moyen de se les offrir. Mm. Donc, du coup, c'est un véritable problème.
Oui, la priorité, c'est évidemment de mettre quelque chose dans l'assiette de ses enfants le soir, plutôt que de s'acheter des connexions Internet qui défilent très vite, en plus, si on ne sait pas bien s'en servir.
Oui, bien sûr. La priorité, c'est ça. C'est le quotidien de la famille. C'est la gestion de la famille. Et donc, face à un choix, on préfère pencher pour le bien-être de la famille, trouver quelque chose à manger à la famille. Et donc, ce que nous avons proposé, et ce que nous continuons de faire d'ailleurs, c'est de mener un plaidoyer pour que le coût d'Internet soit revu à la baisse et qu'il y ait des centres qui soient ouverts, des centres publics, qui permettraient à ces femmes-là de pouvoir se former et de se familiariser à l'outil Internet. Parce que quoi que nous fassions, nous savons que Internet aujourd'hui est incontournable. C'est un moyen de communication efficace. C'est un moyen d'échange qui permettrait à ces femmes qui, à longueur de journée, subissent des violences dans les différentes quartiers, de pouvoir dénoncer ces violences-là, ces maltraitances-là. Ce qui n'est pas toujours évident qu'on puisse se rendre dans un commissariat ou dans un autre lieu pour dénoncer. Mais avec Internet, c'est un libre accès, chacun est libre de s'exprimer. Vous comprenez donc, c'est une véritable préoccupation pour nous ici en Côte d'Ivoire.
Eh bien, merci beaucoup Chantal de nous avoir appelé. Je vois que vous connaissez bien le sujet du fait de votre engagement. Donc, si j'ai bien compris, 80% des femmes en Côte d'Ivoire n'auraient pas accès, en tout cas à Yopougon. Hein. C'est une étude qui est très localisée. Mais tout de même, Yopougon, c'est la capitale. Hein. On est la capitale économique, Abidjan. Ouais. Même si c'est un quartier très populaire, 80% des femmes dans ce quartier n'auraient pas accès à Internet. Merci Chantal de nous avoir appelé. J'aimerais qu'on donne aussi la parole à Amadou qui nous appelle de Conakry, en Guinée-Conakry. Bonjour Amadou, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les fidèles auditeurs de 7 milliards de voisins.
Nous vous écoutons.
En fait, comme elle l'a si bien dit, aujourd'hui l'Internet occupe une grande partie de la vie, puisque pas mal de personnes qui essaient de... Tout se passe sur l'Internet. Mais parlant de cas particuliers de femmes, en fait, je vais essayer de catégoriser cela en deux. Le premier, que les femmes sont moins intéressées à la technologie. Elles sont moins intéressées à la technologie parce que là, quand vous rentrez dans des cyber, quand vous voyez des gens qui manipulent leur téléphone, en majorité, quand vous trouvez les femmes, elles essaient de regarder des séries ou elles essaient de se connecter vite sur Facebook. Donc, c'est fini. Elles n'ont pas, elles n'exploitent pas en profondeur la technologie, elles n'aiment pas trop comment faire de recherche dans la technologie, contrairement aux gens. Le deuxième aspect, même les femmes intéressées à la technologie ont de difficultés. Parce que si vous prenez aujourd'hui les femmes mariées, leur mari n'accepte pas tout le temps qu'elles soient devant leurs écrans, c'est-à-dire connectées à l'Internet avec leurs ordinateurs ou bien avec leurs téléphones. Ça, c'est un problème. Parce que les maris, peut-être, ils ont peur qu'ils ne tissent d'autres relations avec d'autres hommes sur les réseaux sociaux ou même regarder des choses.
C'est ça. Et c'est la même chose pour les parents qui ont peur que leur fille accède à de mauvaises fréquentations. C'est bien cela, entre guillemets. Hein,
si bien elle...
sûr. Ouais. C'est vrai bien pour, sûr, les, pour les filles qui sont au village et qui se rendraient au cybercafé.
Oui. C'est également aussi le cas des filles, comme je l'ai dit. En fait, en Guinée particulièrement, également les amis que je côtoie à l'école, dans le quartier, pas mal de personnes qui ont des appareils, des bons appareils, des appareils téléphoniques très sophistiqués, des bons ordinateurs très sophistiqués, contrairement aux hommes qui n'en ont pas. Mais malgré qu'elles ont des bons appareils, elles n'aiment pas trop utiliser. Parce que là, il y a un désintéressement. Parce que... en Guinée ou bien partout en Afrique, il y a un désintéressement à la technologie. Mais c'est ça, le type qu'on gagne, il faut en profiter. Bon. Mais quand cela ne tient, les femmes, elles ont peut-être...
Les femmes s'achèteraient un beau smartphone uniquement pour montrer qui elles sont. C'est bien cela, hein, selon vous.
Oui, ça peut être.
D'accord. Et puis vous soulignez aussi donc la peur sociale des maris, des familles, des filles qui iraient sur Internet. Merci beaucoup Amadou de nous avoir appelé. Julie Owono, comment vous réagissez par rapport à ces témoignages. Alors, d'abord, Chantal a souligné la question du prix, important, le prix de l'accès à Internet, cher pour la ménagère.
Absolument. En fait, les témoignages qui viennent d'être diffusés, font écho à des éléments que nous avons identifiés depuis 3 ans maintenant d'études sur la question des femmes et du numérique, au Cameroun en particulier, mais ailleurs en Afrique et dans le reste du monde, puisque nous travaillons en partenariat ici avec la Fondation Web et avec d'autres organisations dans 10 pays du Grand Sud, comme on l'appelle, donc en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Et on voit effectivement que les raisons de l'écart, on constate toujours qu'il y a un écart entre hommes et femmes. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se mette d'accord.
Dans les
pays du continent dans lesquels nous avons étudié et dans d'autres pays d'Asie et d'Amérique latine. Il y a un écart entre l'accès des hommes et des femmes. On constate même que jusqu'à certaines femmes ont 50 fois moins de chances, c'est-à-dire une chance sur deux par rapport aux hommes, d'accéder à l'outil numérique. Ça, c'est très grave. Et donc ensuite, quand on comprend pourquoi il y a cet écart, on voit effectivement qu'il y a la question du coût et il y a évidemment la question de l'éducation. Et en l'occurrence, l'éducation numérique, comme on l'appelle, digital literacy en anglais. Et ça, c'est dû effectivement au fait qu'il y a une autocensure des femmes qui font qu'elles se disent qu'elles ne sont pas des personnes qui s'intéressent à la science, et c'est d'ailleurs ce que l'auditeur vient de dire, et à très juste titre, mais en même temps, de nombreuses études démontrent que c'est absolument faux, que les femmes ont le cerveau aussi scientifique que les hommes, mais c'est que la société où les femmes entre elles-mêmes se cantonnent à des rôles beaucoup plus littéraires ou à des rôles beaucoup plus liés à la famille. Mais on voit aussi que lorsqu'on dote les femmes de l'outil numérique, ou en tout cas quand elles s'intéressent plus à l'outil Internet, pas seulement comme un outil pour aller sur Facebook ou prendre des photos et poster sur des smartphones, mais aussi comme un outil pour créer de la richesse, on voit que ça a un impact direct sur l'économie globale et que même des maris qui seraient peut-être contre au départ que leur femme aille sur Facebook, en se rendant compte que en utilisant Facebook et d'autres réseaux sociaux et d'autres sites Internet et d'autres compétences sur Internet, elle crée de la richesse pour le foyer, mais également plus globalement pour l'économie.
À quoi vous pensez ?
Je pense notamment à l'économie informelle. Si on dotait beaucoup des femmes qui sont au Cameroun, on les appelle les Bayam Salam, donc les vendeuses ambulantes, si on les dotait d'outils pour avoir des modèles économiques, préparer des modèles économiques, gérer leur fonds, leur flux d'argent, gérer leur stock, gérer leur clientèle.
Beaucoup de femmes ont un téléphone portable et sur lequel elles ont déjà de l'argent stocké via un porte-monnaie mobile.
Absolument, mais la gestion de l'argent, c'est quelquefois, pour certains, c'est un art. C'est difficile, encore plus quand on a une entreprise. Aujourd'hui, il y a de nombreuses grandes universités, l'université d'Harvard, l'université de Yale, qui mettent en ligne des cours gratuitement, qui sont accessibles à n'importe qui pour en savoir plus sur la gestion de l'argent, la gestion des ressources humaines, parce que ça aussi, c'est très important pour une entreprise. Mais tout ça, ça nécessite de savoir que ça existe. Or, quand on cantonne l'utilisation d'Internet dans certains pays, malheureusement, à l'utilisation de Facebook. Il y a des pays dans lesquels, comme le Nigeria, par exemple, si vous interrogez les gens, pour eux, Internet égale Facebook, c'est très grave. Parce que quand vous êtes sur Facebook, vous n'avez pas accès à toute
cette masse. C'est ce que vous appelez l'analphabétisme numérique,
absolument,
finalement, c'est ça ?
Absolument.
Alors, nous sommes en ligne avec une ministre. Bonjour, Adjassanon Ouattara.
Oui, bonjour, Emmanuel Bastille.
Vous venez d'être nommée ministre du développement de l'économie numérique et des postes au Burkina Faso. Vous dirigez aussi une association Femmes, TIC et Développement Durable. Vous remplacez d'ailleurs, si je ne me trompe pas, une autre femme à la tête de ce ministère. Hein, c'est bien cela, Aminata Salah Congo ?
Oui, c'est bien cela.
Ce n'est pas si courant que la digitalisation d'un pays soit confiée à une femme sur le continent ? Parmi vos homologues autour de vous?
Bon, je crois qu'il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus. Au Bénin aussi, vous avez une femme qui dirige le département de l'économie numérique. Et je crois savoir qu'il y en a aussi en Afrique du Sud, l'Afrique australe de façon générale. En France, chez vous. Hein.
Oui, vous avez fait des études d'informatique dans votre pays, au Burkina Faso. Combien de femmes vous étiez durant vos études d'informatique?
Alors, quand j'ai commencé l'université, nous étions à peu près 5 femmes sur une trentaine. Hein. Ouais, nous étions 5 sur 30.
C'est en train de changer aujourd'hui ?
C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, après, vous avez des femmes ministres de l'économie numérique, vous avez des femmes directrices techniques de grandes sociétés. Et vous avez des femmes, justement, qui disent des ONG dans le domaine du numérique. C'est en train de changer quand même.
Par rapport à ce que nous disait Julie Wonneau sur ces fortes inégalités d'accès aux femmes à Internet, au numérique, vous êtes sur la même longueur d'onde sur le Burkina Faso concernant ces inégalités qui sont bien réelles?
Oui, les inégalités sont bien réelles et elle a évoqué tantôt les thèses. C'est la pauvreté, c'est l'accès à l'éducation, essentiellement. Et puis ces inégalités, on l'observe déjà dans le domaine de l'éducation et puis à l'accès à l'emploi. Et les autres ont parlé des coûts des smartphones, parce qu'essentiellement en Afrique, les gens accèdent à Internet par le mobile. Les smartphones.
Oui, alors vous restez en ligne avec nous durant toute l'émission, Madame la ministre Adjassanon Ouattara, parce que bien sûr, la balle est aussi dans le camp des politiques pour aider les femmes à accéder davantage au numérique. Je voudrais qu'on donne la parole à Anne-Pélagie Yotchou, entrepreneuse sociale au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour Anne-Pélagie Yotchou.
Bonjour.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'en tant qu'entrepreneuse sociale, vous êtes particulièrement investie dans l'aide à l'accès des femmes au numérique? Vous avez l'impression que ces questions commencent à prendre de l'importance sur le continent africain, notamment via les politiques, les gouvernements?
Oui, bien sûr. Vous savez, comme moi, que le secteur numérique occupe désormais une place très importante dans le développement du monde actuel qui est en pleine mutation. Et les femmes ne sont pas toujours très actives dans ce secteur qui représente le futur de l'économie de demain. Donc, c'est dans le cadre de nos actions ici au Cameroun, nous avons tout un programme pour initier les femmes à l'informatique, aux nouvelles technologies. Ça leur permet de pouvoir s'autonomiser, ça leur permet de pouvoir renforcer leurs capacités. Et puis, du coup, ça permet surtout aux jeunes de pouvoir s'intéresser au TIC et de pouvoir aussi en faire carrière avec toutes les opportunités que le TIC offre aux femmes des
Oui. Avec des programmes qui obtiennent des résultats très concrets, nous allons en parler bien sûr après le flash. Junie Owono, vous êtes camerounaise et on le disait, alors il y a des discriminations entre les personnes qui habitent dans les zones rurales et dans les villes, entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, votre pays est victime d'une coupure d'internet arbitraire dans les régions à majorité anglophone depuis 2 mois et demi pour des raisons politiques après plusieurs semaines de soulèvement. Ça veut dire que si on est une femme en zone rurale et en région anglophone, alors là, c'est là. Mais ça prouve que l'Internet est en train maintenant de faire partie des droits humains?
Alors ça, oui, ça fait longtemps que l'Internet fait partie des droits humains, ne serait-ce que parce que la liberté d'expression est une liberté fondamentale et qu'aujourd'hui l'Internet est un outil d'expression majeur, mais c'est aussi un outil de libertés économiques. Donc comme c'était dit très justement, de nombreuses entreprises s'y développent. Et d'ailleurs, c'est ce qui est triste avec le cas de la coupure Internet au Cameroun, puisque ça affecte une des régions les plus dynamiques dans le secteur de l'économie numérique. Et donc ça me permet de revenir sur...
Des startups qui ne peuvent plus travailler concrètement.
Qui ne peuvent plus travailler, ou des banques, ou des entreprises qui font... spécialisés dans le transfert d'argent qui ne peuvent plus fonctionner parce que la matière première qui est Internet n'est plus disponible. Donc ça me permet de revenir sur l'importance que prend Internet dans chez les politiques en Afrique. Il y a une espèce de dichotomie entre effectivement les discours où on voit que l'économie numérique est comment dire, louée pour ses multiples opportunités, mais en même temps une augmentation croissante de ces coupures d'Internet qui pénalisent non seulement les individus, mais je le disais encore, l'économie et surtout l'économie.
Alors, faiblesse des réseaux ou armes politiques? Ça dépend.
C'est les deux. C'est les deux. Il y a une prise de conscience. C'est très important que oui, que les ministères soient conscients que c'est important que les femmes en particulier et que globalement les citoyens soient connectés à Internet. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'actions quand même, mais l'Internet coûte quand même encore assez cher relativement par rapport à d'autres pays du monde. Et surtout, oui, ça devient de plus en plus une arme politique, et ça, c'est très dommage. Et sur la nécessité de connecter plus de femmes, je pense que l'importance des modèles, qu'il y ait des modèles de femmes comme Madame la ministre, comme la dame qui s'exprimait tout à l'heure, c'est important pour d'autres femmes qu'elles puissent s'identifier et se dire pourquoi pas moi.
Voilà. Alors, bien sûr, si vous êtes une voisine entrepreneuse, si Internet a changé votre vie, je veux dire, sur le plan professionnel. Bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment les femmes peuvent-elles tirer parti de la révolution numérique? Qu'est-ce que ça peut apporter à leur famille et au développement de leur pays? Nous y revenons dans 3 minutes, juste après le flash.
Parlez-vous, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins et de voisines, femmes et numériques en Afrique. Quelles inégalités et surtout, comment lutter contre ces inégalités? Comment les femmes peuvent-elles tirer parti de cette révolution numérique? Qu'est-ce que cela peut apporter à leur famille et surtout à leur carrière, au développement de leur pays? Nous en discutons avec Julie Wono, directrice de l'ONG Internet sans frontières. Également en ligne avec nous, Adja Sanon Ouattara, ministre du développement de l'économie numérique et des postes au Burkina Faso. Madame la ministre nous disait en première partie d'émission que de plus en plus de femmes maintenant occupent ces postes de ministre à l'économie numérique. Est-ce que cela fera changer les choses à voir? Et puis également aussi au téléphone avec nous, une entrepreneuse sociale, Anne-Pélagie Yotchou. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment faire en sorte que les femmes, elles aussi, aient accès à l'Internet et soient dans cette révolution numérique, évidemment une révolution économique? Nous accueillons une voisine qui nous appelle également d'Abidjan, Niena. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour Julie, bonjour Madame le Ministre, au revoir.
Soyez la bienvenue, on est ravis de vous accueillir, d'accueillir une voisine en général, parce que je le disais au début de cette émission, les voisines s'auto-censurent bien souvent sur les réseaux sociaux et dans les médias, à l'antenne, sur notre fil Facebook. Vous êtes moins nombreuses, beaucoup moins que les garçons. Alors aujourd'hui, c'est pas de la discrimination positive, mais quand vous avez envie de prendre la parole, on vous la donne, mesdames. Nous vous écoutons, Niena. Nous vous écoutons.
Alors, moi je suis à Abidjan que nous connaissons bien, c'est en Afrique de l'Ouest. Mais je travaille pour une fondation qui est à Washington. Donc, mon bureau est censé être à Washington, aux États-Unis. Mais je suis en Côte d'Ivoire, je suis bien connectée. Et à partir de Côte d'Ivoire, j'ai fait 90% de mon boulot en ligne.
Wow.
Alors, pour moi, je travaille à partir de chez moi. Là où je vous appelle, je suis dans mon salon, dans mon vieux canapé, et je vous parle. Et j'écoute RFI en ligne.
Okay? Génial. Donc, alors, donc vous n'avez pas eu besoin de transférer toute votre famille, mais vous avez bien un poste à Washington. C'est la magie de l'Internet.
Voilà. Et je n'ai pas allé mourir en mer pour aller en Europe ou quelque chose comme ça. Okay?
Oui.
Pour moi, l'Internet, c'est mon travail. À partir de chez moi, je fais le tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une autonomie professionnelle, j'ai une autonomie financière et c'est super d'un équilibre pour ma famille. Donc les télétravailleurs comme moi trouvent leur compte dans la connectivité sur l'Internet.
Comment vous avez trouvé ce travail, Niena?
Par Internet, bien sûr, parce que je faisais d'abord et peut-être qu'il faut là dire que pour qu'il y ait plus de gens comme moi, j'aimerais attarder sur trois choses.
Oui.
Pour l'égalité, pour qu'il y ait plus de nénas aujourd'hui, il faut parler, commencer par la privatisation. Je crois que Julie l'avait un peu brossé. Mmh. Il faut qu'on sache comment mener la vie numérique à bon escient.
Donc l'alphabétisation numérique, hein, on est bien d'accord.
Voilà. Il y a aussi encourager les filles aux filières sciences et technologies. Si Madame Ouattara est ministre au Burkina aujourd'hui, c'est parce qu'elle est formée, elle est bien pour ce qu'elle fait. Et il faut aussi souligner le respect des droits en ligne et en ligne. Parce que quand on dit que non, un homme ne veut pas que sa femme aille en ligne parce que non, l'Internet aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est la santé, on y apprend des choses. Moi-même, je fais toujours les cours en ligne. Donc, il faut respecter les droits des femmes à accéder aux connaissances.
Merci beaucoup, Niena, de nous avoir appelé. Vous êtes à vous seule, votre témoignage est un modèle pour des voisines qui nous écoutent. Adja Sanon Ouattara, ministre du développement de l'économie numérique et des postes au Burkina Faso, vous êtes d'accord avec ces lignes d'action, des modèles forts, de l'éducation numérique, de l'information aussi au cyber droit pour les femmes?
Oui, tout à fait. Et je fais un gros coucou à Niena, qui est vraiment une femme modèle dans le domaine du numérique. Je suis tout à fait d'accord avec elle et c'est pour ça le gouvernement, à travers ma personne, s'investit donc à investir dans les infrastructures de communication électronique pour pouvoir rendre Internet accessible aux habitants du monde entier.
Nous investissons présentement, les grands projets, c'est vraiment l'infrastructure de base.
Oui, mais
et
alors,
puis,
justement, Madame la ministre, vous venez du monde associatif, donc où là, il faut mener des actions concrètes hein, avant d'être ministre. Quelles sont les actions qui donnent des résultats pour l'accès des femmes à Internet?
Bon, essentiellement, à la Fondation Femmes Éthiques, nous menons des activités de renforcement de capacité et des activités de sensibilisation. C'est ce qui vraiment porte.
Ça veut dire quoi?
Et une femme convaincue, non, c'est des formations, beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation. Et notre champ d'intervention, c'est toutes les femmes. Nous avons organisé des formations pour des femmes non alphabétisées qui ne sont jamais allées à l'école sur l'utilisation du mobile. Un exemple très simple, c'est le texto. Parce qu'elles ne savent ni lire ni écrire, donc elles ne peuvent pas faire des textos. Mais elles peuvent envoyer de la voix. Et nous les avons formées en leur donnant des moyens pour qu'elles puissent envoyer de la voix. Elles ne parlent ni français ni anglais, mais elles parlent dans leur langue locale. Et pour communiquer avec leurs correspondants, elles peuvent envoyer de la voix à moins cher, au prix d'un texto. Donc ce sont des techniques qu'on présente justement aux femmes pour leur inciter aux usages des tics.
Adjassano Ouattara, la ligne téléphonique est en train de se dégrader malheureusement, hein, parce que on a beau parler de numérique, les lignes téléphoniques ne s'améliorent pas forcément. Restez, nous allons tenter de vous rappeler pour avoir une meilleure ligne. Anne Pelagie Yotchou à Yaoundé, en tant qu'entrepreneuse sociale, vous, quelles sont les actions que vous menez très concrètement pour aider des femmes, qu'elles soient d'ailleurs alphabétisées ou pas?
Oui, dans le cadre de notre organisation, par exemple, nous avons plusieurs sessions de formation que nous organisons. Nous organisons tous les mois des sessions de formation, pas seulement à l'attention des femmes dans les villes urbaines. Nous accordons aussi beaucoup d'attention aux femmes rurales, dans les zones rurales. Parce que vous savez, très souvent, elles sont un peu oubliées. Parce que nous pensons que le monde ne peut pas évoluer en laissant les femmes rurales en arrière. Parce que nous pensons qu'avec les TIC aussi, elles peuvent mieux jouer leur rôle de manuelle nourricière et puis ça peut contribuer à améliorer leurs conditions sociales.
Vous pouvez nous donner des exemples précis de formations qui offrent réellement, immédiatement, une opportunité professionnelle pour ces femmes, pour leur activité?
Oui, par exemple, avec les femmes, par exemple, micro-entrepreneurs, nous avons des formations d'initiation, les formations pour les initier à l'utilisation de l'informatique pour la gestion de leur activité économique. Nous avons permis à plusieurs petits groupes de femmes entrepreneurs de pouvoir créer des comptes sans publicité Orange Money pour pouvoir gérer leur activité et pouvoir vendre et recevoir de l'argent à travers le porte-monnaie électronique. Nous avons beaucoup d'activités aussi avec les femmes leaders aussi que nous formons en informatique pour leur permettre de pouvoir créer une identité de marque, booster leur visibilité et d'acquérir plus de clients pour les femmes entrepreneurs pour pouvoir développer leur entreprise. Nous, avec les leaders d'association, nous les formons aussi pour les aider à pouvoir développer leur activité à travers Internet, favoriser les échanges avec d'autres associations sur d'autres horizons pour faciliter le partage d'expériences et des success stories. Nous avons aussi des activités de formation aussi en ligne. Donc nous regroupons les femmes, on va dans les villages, on met les femmes en groupe et puis on crée des débats en ligne. Parce que nous faisons aussi de la sensibilisation aussi pour le changement de comportement à travers ces formations en informatique. Donc vous comprenez que l'outil informatique maintenant n'est pas seulement que pour les femmes dans certains milieux. Donc il est important que les gouvernements essayent vraiment de mettre en place des politiques pour permettre que les femmes aient plus confiance en elles-mêmes, qu'elles se disent qu'elles peuvent aussi tenter leur chance à devenir entrepreneurs.
Et qu'Internet, c'est aussi pour elles. Julie Wono, vous souhaitez intervenir?
Oui, non, c'est vraiment très très bien tous ces exemples d'activités. C'est beaucoup d'inspiration. Et je tenais juste à saluer rapidement Néna, qui est une source d'inspiration pour moi personnellement. Télétravailleuse à Abidjan, qui travaille aujourd'hui pour l'une des plus grosses fondations sur la question du développement du web. C'est pour ça que je parlais de modèles. C'est important d'avoir des modèles parce que quand on voit d'autres femmes y arriver, échapper un peu à la destinée qui était la leur, c'est-à-dire une femme africaine dans un monde globalisé.
Qui n'a pas forcément fait d'études à l'étranger.
Ça démontre que, enfin, cet outil a vraiment ouvert des portes, en tout cas m'a ouvert des portes, donc ce serait bien que ce soit la même chose pour d'autres. Maintenant, Madame Yotchou a toucher quelque chose de très, très important. C'est bien tous ces programmes et c'est vraiment très important de former au jour le jour. Maintenant, il faut que les politiques suivent. Et c'est là où le problème se pose, notamment dans un pays comme le Cameroun. Pour régler un problème, il faut d'abord le quantifier. Or, au Cameroun, nous avons eu beau chercher Internet sans frontières, nous n'avons malheureusement pas trouvé des politiques publiques avec des objectifs chiffrés sur le nombre de femmes qui devront être connectées à l'horizon 2020, puisque depuis que
donc sur
les
des
OMD...
Sur, vous voulez dire sur des engagements politiques,
sur des engagements politiques. Et il faut savoir que après les OMD, donc maintenant nous sommes dans les objectifs de développement mondial, durable, nous sommes maintenant dans... Sustainable Development Goals,
oui,
je suis désolée.
C'est ça, les objectifs du développement durable.
Merci. Et que la question de la connectivité des femmes et de l'accès des femmes au savoir fait partie de ces objectifs de développement durable. D'où l'importance, ça veut dire que tout le monde comprend que si l'on connecte les femmes, c'est toute la société
qui va en profiter. Ça, c'est pour la mobilisation des bailleurs de fonds, mais effectivement, ensuite...
Mais concrètement, ça oblige ces États-là, ces États doivent prendre l'engagement de mener des politiques chiffrées, avec des objectifs chiffrés
sur la connectivité
des femmes. Ça veut dire
que dans les années
femmes.
À venir, et déjà aujourd'hui, il y a plus de moyens financiers pour aider les politiques africaines là-dessus.
Ça voudra dire que oui, il y en aura peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y a de la place, il y a une marge de manœuvre pour ces politiques-là, à mettre en place ces politiques intéressantes pour la connectivité des femmes. Mais elles ne peuvent pas le faire seules, et c'est pour ça que des ONG comme la mienne ou comme d'autres sont là, parce que nous, ça fait des années que l'on mène des études sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, sur pourquoi c'est important de quantifier un problème pour pouvoir savoir ensuite où taper.
Ce qui ne marche pas, par exemple.
Ce qui ne marche pas, c'est de faire des grandes déclarations. Oui, on veut que les femmes aient accès à Internet, mais que...
Ou des formations purement théoriques.
Ou
ça
des formations
pendant longtemps.
Purement théoriques. Par exemple, au Cameroun, il y a un programme 100 000 femmes à l'horizon 2025 formées au numérique. On a discuté avec beaucoup de personnes au Cameroun et c'est vrai que ce programme-là...
Et dedans, il n'y a rien, c'est ça ?
C'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il pourrait y avoir des choses beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire, c'est pas juste, Internet, c'est pas juste allumer et ouvrir Internet Explorer ou Firefox, le navigateur. Ce n'est pas juste ouvrir et éteindre Facebook. C'est aussi, comme le disait l'auditeur précédent, avoir accès à des outils de gestion de son entreprise en ligne, avoir accès à des cours en ligne, savoir utiliser Wikipédia, savoir contribuer à Wikipédia.
Enseigner immédiatement les opportunités.
Enseigner les opportunités d'un point de vue pratique. C'est très important parce que si vous avez une société dans laquelle les citoyens pensent qu'Internet, l'outil qui est censé développer l'économie numérique, se résume à un outil comme Facebook où le contenu ne vous appartient pas, où vous êtes plus consommateur que créateur, ça pose un problème. Si on voit comment l'économie numérique se déploie dans des pays comme l'Inde ou dans des pays comme la France, c'est justement parce que les personnes ont eu accès à d'autres contenus que seulement ceux qui étaient ceux sur lesquels ils étaient
c'est
les consommateurs.
C'est donc une approche tout à fait différente. Adja Sanon Ouattara, vous êtes toujours en ligne avec nous, ministre burkinabé de l'économie numérique et des postes. Que pensez-vous de l'analyse de Julie Owono sur la priorité à expliquer les opportunités professionnelles pour les femmes ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que quand les femmes comprennent l'enjeu majeur, elles adhèrent tout de suite. Et en Afrique, souvent, on le dit, et on l'observe dans tous les domaines, que chaque femme est un encadreur potentiel pour la jeunesse. Donc, en investissant dans la formation des femmes, on investit du coup on investit pour tout le monde.
Oui, chaque femme est un encadreur à privilégier pour l'encadrement de la jeunesse. On retient cette phrase, Adja Sanon Ouattara. Nous donnons la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bouna, vous êtes à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les voisins du monde.
Bouna, vous êtes directeur d'une petite école privée à Nouakchott. Je crois que dans votre école, il y a plus de filles que de garçons.
Voilà, j'ai remarqué que les effectifs des filles sont souvent supérieurs à ceux des garçons.
Vous avez une question par rapport à l'enseignement, la sensibilisation à Internet, à l'informatique ?
Oui, j'essaie d'intéresser mes élèves et surtout les filles à l'informatique, leur dire que dans quelques années, elles seront des analphabètes si elles ne savent pas manipuler un ordinateur. J'ai beau parler, mais pour le moment, ça ne passe pas. Je ne sais pas ce que je dois faire.
Qu'est-ce que vous avez tenté déjà ?
J'ai acheté des ordinateurs. Et même si ma famille n'était pas d'accord, j'ai essayé d'investir dans des ordinateurs. J'ai contacté une firme ici qui enseigne l'informatique, qui est très populaire à Nouakchott. J'ai eu l'un des formateurs qui est venu.
Bouna, nous vous avons perdu, je crois, au téléphone. Bon, si je comprends bien la question de Bouna, pour les garçons, quand on allume l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Il y a du monde qui se masse autour de l'écran et les filles sont beaucoup plus distantes. Il y a un problème d'approche ou pas?
Alors, je ne veux pas être critique vis-à-vis de l'intervenant, mais... Comment dire ça? Il faut lier ça à quelque chose qui a été identifié en introduction de cette émission par l'un des auditeurs, qui est les femmes s'intéressent moins à la science. Mais est-ce qu'elles s'y intéressent moins parce qu'on leur a dit que c'était pour les garçons, la science, ou bien... En tout cas, il y a une réalité, c'est que les femmes s'auto-censurent dans tout ce qui est scientifique. Ils ont une approche un peu distante par rapport aux mathématiques, à l'abstraction. Donc, forcément, si on approche les choses d'un point de vue uniquement programmation HTML, langage CSS, Java, enfin, évidemment que c'est peut-être peut-être un peu moins intéressante. Par contre, je sais que ce qui a fonctionné, par exemple, pour nous et pour d'autres personnes avec qui nous avons travaillé, c'est vraiment l'approche par le modèle, c'est-à-dire la capacité d'identification par rapport à d'autres femmes, et des femmes africaines en particulier, puisque nous sommes dans le contexte africain. De voir qu'il y a une femme qui est aujourd'hui ministre, comme madame le ministre du Burkina Faso, ou bien de voir qu'il y a des femmes qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, qui arrivent à soutenir toute leur famille, parfois même tout leur village, parce qu'elles ont créé une application. De voir que l'application, ça peut être très ludique, ça peut permettre de régler des problèmes pratiques pour les femmes, comme par exemple la question de la fécondité, enfin du cycle menstruel. Enfin voilà, il y a des approches pratiques qui sont, en tout cas, qui pour nous ont fonctionné, ou même plus globalement pour les femmes qui ont pour les jeunes femmes, voir que elles peuvent être, comment dire, devenir des expertes dans leur domaine. Elles peuvent créer du contenu, créer de la richesse. Elles peuvent être un peu célèbres pour certaines. Montrer qu'il y a, enfin, l'approche par modèle et par le côté pratique de l'Internet, non pas seulement le côté, mathématiques, même si évidemment il ne faut pas le laisser de côté, mais disons que c'est peut-être l'approche, l'introduction qui peut faire la différence. En tout cas, chez nous, ça a fait quand même une certaine différence. Et puis, il ne faut pas oublier une chose importante, qui est que les hommes, ils ont plus de temps que les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont les tâches ménagères, les jeunes filles. Au Cameroun, par exemple, l'Institut de la Statistique a publié une statistique qui montrait que les femmes passaient le double du temps aux tâches ménagères que les hommes. Donc forcément, vous avez moins le temps de comprendre comment fonctionne CSP++. CSS ou Java, les langages de l'informatique. Donc, c'est pour ça que l'approche pratique est très intéressante. En tout cas, elle a fonctionné pour nous pour essayer de combler ce déséquilibre-là. Et encore une fois, la question des modèles est fondamentale.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, bien sûr. Hein. Comment réduire le fossé numérique entre les femmes et les hommes sur le continent africain? 33 1 84 22 71 71.
Sun, Jane, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Comment réduire le fossé numérique de l'accès à Internet entre les hommes et les femmes sur le continent africain? Nous en discutons, nous étions en ligne tout à l'heure avec la ministre du développement de l'économie numérique des postes au Burkina Faso, Adja Sanon Ouattara. Nous sommes toujours avec Anne-Pélagie Otchou, entrepreneuse sociale au Cameroun. On n'a pas encore abordé, Anne-Pélagie Otchou, la méfiance que peut susciter l'Internet pour certaines femmes sur le continent africain. Je veux parler des risques tout à fait réels, d'ailleurs, de harcèlement via Internet, Anne-Pélagie Otchou.
Oui, c'est bien vrai. Ce que vous dites, ces risques-là existent partout, mais ce n'est pas cette raison-là qui va, comment je vais dire, pousser les femmes à se désintéresser à l'informatique, parce que désormais, sans les TIC, la femme ne pourra pas se développer. Nous, par exemple, ici au Cameroun, au sein de notre organisation, dans le cadre de nos activités de sensibilisation, d'éducation, de communication des masses, pour les changements des comportements, nous travaillons beaucoup justement avec les femmes qui sont d'abord les mères des familles, celles-là qui sont toujours, qui sont les premières éducatrices de leurs enfants. Nous les sensibilisons justement, comment je vais dire, à comment amener les enfants à utiliser l'Internet. Parce que vous savez, l'Internet désormais aujourd'hui est très important, même pour l'éducation des enfants.
Oui.
Mais il faut bien canaliser, il faut bien choisir quel site les enfants vont faire, dans quel site les enfants vont faire des recherches,
oui.
quels sont les moteurs de recherche qu'ils utilisent. Donc c'est une question d'éducation.
Oui. Oui, vous avez raison, c'est pas seulement une question de métier, de développement économique des femmes, mais c'est aussi être en capacité de comprendre et de contrôler ce que font leurs enfants sur Internet. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Julie Owono, avec l'ONG Internet sans frontières, vous avez mis en place un forum de discussion qui s'appelle « Moi, Camerounaise du net ».
Oui, c'est en fait une campagne justement suite à la recherche que nous avons menée en 2015 et dont j'ai parlé en introduction, donc qui a montré les inégalités hommes-femmes au Cameroun dans l'accès à Internet. Nous avons voulu d'abord casser le cliché, c'est-à-dire pendant longtemps, si vous tapez sur Google, par exemple, vous tapez Camerounaise Internet, femme, vous allez voir que les premiers résultats, c'est trouver une femme camerounaise sur un site de rencontre. Nous, on voulait casser ce cliché de la femme camerounaise utilise Internet que pour faire des rencontres ou pour discuter de choses futiles. Nous avons discuté, nous avons rencontré 4 femmes très intéressantes au parcours très différent les unes des autres. Une étudiante qui dit que sans Wikipédia, aujourd'hui, elle ne serait rien dans ses études. Une autre, Almighty, qui est anglophone d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est très important, qui a créé une entreprise, 2 entreprises même, et qui aujourd'hui nous a dit qu'elle a pu multiplier par 4 son chiffre d'affaires, parce qu'elle a des clients maintenant au Canada, enfin dans le reste du monde, enfin c'est assez...
Des entreprises de...
Une entreprise qui vend des produits d'agriculture bio, de l'agriculture bio, donc ce qui intéresse forcément les gens de la diaspora camerounaise. Ou bien encore Ariel, qui est cette jeune femme, elle aussi, qui a commencé, qui est informaticienne de formation, et qui aujourd'hui forme d'autres jeunes filles pour leur apprendre à faire des applications qui leur sont utiles et qui pourraient éventuellement leur permettre de gagner de l'argent. Ou bien encore cette Aurélia, qui est en recherche d'emploi et qui dit que sans Internet, sa recherche d'emploi n'aurait pas été du tout la même qu'avec l'outil qu'elle a aujourd'hui. Donc ça montre bien que loin de seulement utiliser Internet pour faire des rencontres, encore une fois comme je disais, ou poster des photos comme ça l'a été dit en introduction, il y a de nombreuses femmes pour qui ça représente un réel changement, non seulement économique, comme je disais, créer des entreprises multipliées par 4 son chiffre d'affaires, mais aussi des opportunités professionnelles. Et dans un monde où l'information va tellement vite, on ne peut pas se priver d'un outil comme celui-là. Et je voulais revenir sur la question de la sécurité, le sentiment de sécurité en ligne. C'est très important parce qu'on a, nous, dans notre recherche qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y a un lien entre le sentiment de sécurité et justement la capacité à utiliser Internet dans toutes ses possibilités. Si les femmes perçoivent Internet comme un espace non sécurisé, où elles risquent de se faire harceler, où elles risquent d'avoir leurs données personnelles cooptées par n'importe qui, évidemment qu'elles n'auront pas envie d'y passer plus de temps que ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire soit pour envoyer de l'argent par mobile money, ou bien juste pour dire bonjour à leur famille. Et c'est très dommage. C'est pour ça que c'est important que non seulement, oui, il y ait des politiques, que les politiques s'intéressent à augmenter le chiffre de la connectivité, mais il faut aussi comprendre comment l'augmenter. Et on ne peut pas l'augmenter si on néglige la question de la sécurité, des violences basées sur le genre. Vous parlez de harcèlement, on parle aussi de...
Qui ont lieu aussi via les numéros de téléphone portable.
Absolument.
Hein, les femmes sont harcelées pendant des jours et des jours juste parce qu'un homme est tombé sur une voie féminine, sur un numéro de téléphone.
Exactement.
Portable. Donc c'est pas forcément lié à Internet.
Non, c'est pas que lié à Internet, mais c'est vrai que Internet, par le fait de l'anonymisation qu'on peut y avoir, décuple encore plus ces mauvais comportements, malheureusement. Donc c'est important de s'en préoccuper.
Julie
aussi.
Ouono, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un message aussi à destination des hommes, à destination des papas, des grands frères, des instituteurs aussi, pour l'alphabétisation numérique des femmes?
Oui, je pense qu'il y a vraiment question, pour moi c'est vraiment la question de coopération. C'est-à-dire que la question de l'alphabétisation numérique du plus grand nombre de femmes ne doit pas être que l'affaire d'autres femmes, parce qu'aujourd'hui vous avez votre plateau, nous sommes essentiellement des femmes et c'est très bien, mais ça doit être également, et pourquoi pas surtout, l'affaire des hommes, parce que comme on l'a dit, eux ils ont beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui de s'intéresser à cet outil-là. Donc partager leurs connaissances avec leurs sœurs, leurs mères, passer du temps, leur expliquer que ce n'est pas qu'un espace voilà, où on peut se faire...
On peut s'y mettre à tout âge, il faut le préciser.
Et on peut s'y mettre à tout âge. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de pas y voir une dichotomie ou une discrimination, comme ça a été dit en introduction, mais de voir ça réellement comme une opportunité économique pour les ménages, mais aussi plus globalement pour l'économie de tout un pays.
Voilà. Merci à vous toutes. Julie Ouono, directrice de l'ONG Internet Sans Frontières. Merci à Jassanon Ouattara, ministre du développement de l'économie numérique et des postes au Burkina Faso. Et puis également, merci à Anne-Pélagie Ochou, entrepreneuse sociale et leader d'associations féminines. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Hugo Violas et Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. Jeunes cherchent désespérément un premier emploi. Garçons et filles, les employeurs vous demandent un minimum d'expérience. Or, vous êtes à la recherche de votre premier job et donc vous n'avez pas d'expérience. On en parle demain. Radio Foot.